Alléluia. Voilà, bonjour. Revenir ici, c'est toujours un peu revenir chez soi. Alléluia. Et c'est vraiment une joie d'être, de retrouver la famille. Tout à l'heure, je regardais Luc et m'est venue une petite idée. Il y a quelques jours en arrière, c'était il y a 25 ans, je regardais Luc et Manu. Et vous savez, Dieu est à l'œuvre. Parce qu'après quelques jours, j'ai fait leur connaissance, Michel et moi, on les regardait, ils avaient une gratte, et là Manu chantait. Et là Manu chantait, Mais une chose qui a changé, c'est que quand je reviens 25 ans plus tard, c'est plus deux jeunes qui viennent de se marier, c'est un papy et une mamie. Comme quoi les choses, elles avancent. Hein? C'est vraiment une joie de venir revoir mon ami papy Luc et mamie Manu. J'allais dire, ils ont de nombreux enfants, mais non, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ok. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence. Nous te remercions pour la joie d'être ensemble. Et Seigneur, je te demande que toi, tu puisses parler au cœur de ton peuple. Esprit de Dieu, transperce-nous par ta parole. Nous croyons que se prépare un mariage extraordinaire. Mais je te prie que tu nous prépares à ça. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On est en train de vivre par toute la terre des bouleversements et toutes sortes de choses qui changent. Il n'y a pas seulement Luc et Manu qui sont devenus papy et mamie. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Et malheureusement, Luc me donne 40 minutes. En fait, je voudrais commencer un enseignement qui va durer les 25 prochaines années. Et je sais que c'est un peu la quadrature du cercle, parce que j'aimerais bien avoir des semaines encore, mais comme on n'a plus l'école de prophètes, donc je ne vais pas pouvoir rester une semaine. Et donc, en 40 minutes, je veux simplement vous partager ce que le Saint-Esprit fait brûler dans mon cœur depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. Mais je crois que quelque chose change. Depuis le début de l'année, je dis à beaucoup de gens, je dis, c'est le temps de remettre les compteurs à zéro. On appuie sur le bouton reset. Hein. Ici, je sais qu'ils utilisent beaucoup les MacBooks, alors il y a moins de problèmes techniques. Mais sur les ordinateurs Windows, PC, de temps en temps, il y a tellement de problèmes, il faut faire un reset. Et Dieu veut que dans nos vies, il y ait un réel reset. Ça ne veut pas dire que ce qui est passé est mauvais, mais ça veut dire que ce qui est devant est meilleur que ce qui est derrière. Amen. Et j'aimerais vous dire, ce qui est devant, c'est exactement ce dont Luc a parlé quand il a dit, c'est le temps de dire, viens. Et je voudrais vous dire, en général, je ne fais jamais de correction comme ça en public, mais il y a une faute d'orthographe. Ma femme me dit, t'as vu qu'il y a une faute d'orthographe sur le champ. Alors, je n'avais pas prévu d'en parler, mais c'est pas l'esprit et l'épouse se disent « Ah, ce serait bien s'il venait ». C'est l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Vous comprenez? C'est pas qu'on se dit entre nous « Luc, ce serait bien si Jésus il envahissait Guebwiller ». « Luc, ce serait bien si Jésus il envahissait l'Alsace ». C'est pas on se dit à nous-mêmes, c'est nous déclarons avec foi l'esprit en accord avec l'épouse ou l'épouse en accord avec l'esprit disent viens. C'est beaucoup plus que ça. C'est pas ce serait bien s'il arrivait, ce serait bien s'il intervenait dans ma situation, ce serait bien si Jésus faisait quelque chose. Déjà, des gens m'ont dit ce matin, tu sais, c'est une bonne idée. Pour l'instant, je suis coincé au point que s'il n'y a pas de miracle, je m'en sors pas. Et je crois que le Seigneur nous amène dans ces situations où on est en situation absolument impossible de s'en sortir autrement que par un miracle. Mais je voudrais vous dire, c'est pas seulement un miracle qu'on attend, c'est qu'il épouse son épouse. J'aimerais vous dire, c'est un événement. Je sais que l'an prochain, il va y avoir des élections, mais nous, on a déjà voté pour quelqu'un. Et son nom, c'est Jésus. Je sais que certaines personnes dans cette salle n'ont pas encore peut-être fait une démarche avec le Seigneur Jésus. Mais je voudrais vous dire que ce matin, le Saint-Esprit veut déposer dans vos cœurs quelque chose qui fait que votre vie entière peut basculer. Et la vie des vieux chrétiens comme moi, qui est encore plus vieux que Papy Luc, la vie peut basculer quand tu attrapes cette réalité que ce en quoi on est engagé, c'est pas seulement un combat avec le diable, c'est en réalité un engagement avec Jésus. Et c'est pas un engagement simplement parce que je demande le baptême, tu sais, bon, je donne ma vie à Jésus, blabla. C'est beaucoup plus que ça. Je voudrais parler aux jeunes baptisés. C'est pas seulement tu donnes ta vie à Jésus, tu t'engages dans un chemin qui se finit par un mariage. Écoutez bien, l'Esprit de Dieu nous a été donné, pas seulement pour qu'on ait gli-gli, pas seulement pour qu'on ait une expérience, pas seulement pour qu'on ait des expériences, mais parce qu'il nous prépare, il nous ajuste pour la rencontre avec l'Époux. Je ne sais pas vous, ça fait des années qu'on se connaît, c'était un privilège de marcher pendant autant d'années avec ce couple, et on a ri et on a pleuré ensemble, mais je voudrais vous dire, l'intercession de l'Esprit de Dieu dépasse tout ce qu'on n'a jamais vécu pendant ces 25 dernières années. Elle veut marier une épouse avec l'Époux. Waouh ! Je voudrais vous dire, on a prié pour la France, on a prié pour l'Allemagne, je sais, dans ces terres-là. Mais je voudrais vous dire, Jésus veut marier l'Alsace. J'étais invité par un de mes étudiants. Je disais en deux mots à Luc, juste une toute petite parenthèse. Un de mes étudiants, pas chrétien, il m'a invité. Il est Sri Lankais. Et au Sri Lanka, ils ont encore un système de caste. Et je lui ai posé la question, parce que des fois, on sait pas des choses. Hein. Donc je lui ai dit, c'est quoi les castes? J'ai envie de savoir ce que c'est qu'une caste. D'où ça sort? Pourquoi il y a des systèmes de castes en Inde? Il m'a dit, c'est assez simple. Les castes, elles reposent sur le métier de nos ancêtres. Le métier des ancêtres, j'ai dit, oui, mais c'est quoi les castes les plus élevées? Et il m'a dit ceci, il y a la caste la plus élevée, c'est la caste royale. Si tu es né dans une famille royale, tu es de la caste supérieure. Et quand tu t'approches du Christ, tu rencontres le roi de gloire. C'est pas simplement que tu chantes au roi de gloire, c'est qu'il t'a fait entrer dans la caste supérieure. Tu es en contact avec la famille royale. Moi, il y a 2 ans, je mariais ce jeune couple-là. Enfin, non, je le mariais pas, c'est pas moi qui marie, mais Dieu avait décidé d'unir ce jeune couple-là et ils regardent leur fille, quoi. Ils l'appellent déjà princesse. Ils l'appellent princesse parce qu'elle est rentrée dans la famille de Raph et de Katia. Il y a une grâce. Et j'ai dit, c'est quoi le niveau 2? Vous savez ce qu'il m'a dit, ce jeune homme, ce jeune garçon-là, Sri Lankais? Il m'a dit, la caste supérieure, bon ça on comprend que c'est un privilège unique, hein, faire partie de la famille royale. D'ailleurs, c'est pas une invention, hein, la parole de Dieu, au moins 2 fois dans le Nouveau Testament, dit, il a fait de nous des sacrificateurs et des rois. On est ça. Peut-être qu'on se comporte comme des mendiants, peut-être qu'on se comporte comme des vers de terre, peut-être qu'on se comporte comme des éboueurs, mais on reste des gens qui sont de la race sacerdotale, de la race royale. J'ai dit, c'est quoi le numéro 2? Il m'a dit, c'est les agriculteurs. J'ai dit, tiens, explique-moi pourquoi. Les agriculteurs. Nous, dans la culture occidentale, les agriculteurs, c'est le bas de le... Hein? Les agriculteurs, mais c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a confié à Adam? Il lui a confié la terre. Il a confié l'Alsace, il a dit, fais pousser des vignes et gère la terre. Et l'agriculteur, je voudrais dire aux agriculteurs, vous avez une longueur d'avance sur tous les autres. C'est parce que Dieu vous a confié la terre d'Alsace, la terre de France, la terre d'Allemagne. Dieu nous a confié les nations. Il nous a donné une responsabilité. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu déclare déjà dans le prophète Ésaïe qu'il ne va pas laisser ta terre comme une terre désolée. Hello ? Il dit, il va l'épouser, ta terre. Dieu se prépare à un mariage fabuleux. Et je sais qu'il y a des théologies sur l'enlèvement ou pas l'enlèvement. Quelque part, ça m'importe peu. Moi, j'ai la théologie du mariage. D'accord ? Dieu veut marier la terre. Dieu veut épouser la terre. Vous méditerez sur tout ça. En attendant, des fois, on rame. Est-ce que vous, y a des gens qui comprennent ça ? Hello ! Même l'apôtre Paul, il écrit « Nous ne voyons pas que toute chose lui soit encore assujettie. » Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent ce dont je parle là ? Que parfois, tu rames. Hein ? On a déjà parlé un petit peu avec mon ami Denis. Il m'a dit « Il y a des bouts de papier que je voudrais. » Des fois, tu dis « Mais c'est quoi qui bloque, Seigneur ?» Il y a 2 mois, j'étais dans une église. C'est pas ici, hein. J'étais pas ici il y a 2 mois, je vous rassure. J'étais dans une église et puis j'ai entendu plein de choses. Et je me suis dit « Seigneur, comment est-ce qu'on peut sortir de ça ?» Alors, il y en a qui commencent à avoir peur parce qu'ils savent que la nuit qui suit, il y a des ennuis. Donc, un soir, j'ai écouté toutes sortes de problèmes. Enfin, ça a duré d'ailleurs toute la journée. Et le soir, j'étais désespéré. J'ai dit, mais Seigneur, ça coince. Ça devient tellement compliqué. Est-ce que vous vivez des fois des situations compliquées? Et vous vous dites, comment je vais m'en sortir? Ça vous arrive à vous? J'étais là dans mon lit avec mon épouse. Ça reste mon épouse, hein? On est toujours mariés, on s'aime encore. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. J'étais dans mon lit, puis j'ai dit, Seigneur, c'est trop compliqué pour moi. J'ai dit, il faut que tu me parles. Et je m'endors, et j'ai pas eu de songe. Mais dans la nuit, vers les 3-4 heures, je me réveille et j'entends l'Esprit de Dieu me parler. Il m'a donné un mot. Est-ce que vous voudriez savoir ce mot ? Hein, vous le voudriez ? J'ai entendu ce mot, puis vous savez que j'aime bien lire ma Bible. Alors, dans ma petite cervelle, j'ai essayé de faire fonctionner la mémoire. Mais à mon âge, ça s'use. Alors j'ai relu le livre des Éphésiens, je pensais que c'était là. Après j'ai lu les Galates, j'ai dit les Galates c'était des gens qui étaient emberlificotés dans les problèmes. J'ai lu les Galates et j'y arrivais pas et je trouvais pas ce mot. J'ai dit Seigneur il faut mon aide. Alors je me suis retourné vers ma femme, je l'ai réveillée, j'ai dit ma chérie est-ce que tu peux me dire où ce mot se trouve dans la Bible ? Alors elle m'a donné d'autres références bibliques, mais comme elle a le même âge que moi, on n'a pas trouvé. Mais je savais que j'avais une clé pour la suite. Une clé de préparation au grand mariage. Ah, j'ai dit, Seigneur, c'est où ? Alors, j'ai eu une bonne idée. J'ai mis la Bible sur un petit ordinateur, là, de poche. Et dans la nuit, j'ai cherché ce mot. Et je suis tombé sur un passage. Je veux le partager avec vous ce matin, rapidement. Mais venez avec moi dans le livre des Corinthiens, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça fait du bien de se revoir, hein ? Oh. Je voudrais vous partager ce mot. J'ai ouvert ma Bible en 2 Corinthiens. Je vais vous le dire, je ne vais pas vous faire attendre trop longtemps. Ce mot, c'est le mot « saint ». Simplicité. T'es bourré de questions, il y a des problèmes inextricables, et le Seigneur te répond un mot. Le Saint-Esprit vient dans ta chambre la nuit, puis il te dit « Simplicité ». Ok. Puis on en fait quoi de ça, Seigneur ? Eh bien, simplicité. Jésus lui-même, il a dit « Soyez simple ». Il n'a pas dit « Soyez des simplets ». Il n'a pas dit simplifier les problèmes. Il a dit apprenez la simplicité. Et vous savez, j'ai découvert une chose, c'est que quand le Saint-Esprit est descendu sur l'Église au début, vous savez la marque ? La Bible dit qu'ils commençaient, ils avaient changé de façon de manger. Leur vie pratique avait été transformée. Pas seulement ils parlaient en langue, mais leur comportement dans leur vie pratique. La Bible dit quelque chose de très important là. Vous verrez, c'est en pleine effusion du Saint-Esprit, acte 2, 3. La Bible dit qu'ils mangeaient leur repas avec simplicité de cœur. Je voudrais vous dire, il y a une clé. Le Saint-Esprit dit, vous avez eu une vie chrétienne qui était bonne jusqu'à maintenant. C'est le temps de retrouver la simplicité quant au Christ. Et je crois que le Seigneur nous fait revenir dans nos fondations, revisiter ce qui est devenu trop compliqué. Amen. Vous venez avec moi, vous voulez voir comment c'est? Je vais vous regarder, c'est 2 Corinthiens chapitre 11. Tout le monde est là avec moi? Je suis content parce que ce n'est pas mon idée, c'est l'idée du Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1er. Je voudrais que vous supportassiez un peu ma folie. Bon, ça c'est une vieille version, je suis désolé, je vous demande pardon. Mais vous me connaissez, beaucoup d'entre vous. Je voudrais que vous supportiez ma folie. C'est Paul qui dit ça. C'est assez incroyable parce que... Ah, merci, voilà. De ma part, un peu de folie. Oh, puis vous savez qu'il y a beaucoup de gens dans cette église qui sont un petit peu... Hein? Vous savez, c'est intéressant. L'apôtre Paul écrit « Je voudrais que vous supportiez ma folie ». L'apôtre Paul vivait avec une sorte de folie. Vous savez, il y a deux sortes de folies dans la Bible. Il y a une folie qui est vraiment la marque des sots. Avec Saint Luc qui vous enseigne sans arrêt sur les proverbes, vous savez ce que c'est ça. Hein? La sottise et la folie sont toujours liées dans la Bible. Mais je ne parle pas de cette sorte de folie. Je parle de la folie qui, en fait, il est même parlé dans le livre des Corinthiens de la folie de Dieu. Il y a quelque chose qui doit heurter notre petite cervelle, quelque chose qu'on doit comprendre comme étant un peu cinglé. Il utilise ces mêmes mots pour décrire la parole de la croix. Il dit la parole de la croix, l'évangile, les fondations de l'évangile, c'est de la folie pour l'homme naturel, ou un scandale. C'est une provocation, c'est quelque chose qui est réellement impossible à capter avec le bon sens. Croire que parce que Jésus a donné sa vie, est mort sur une croix, ta vie peut être transformée, c'est absolument, c'est se dire, il a un petit grain, le gars. Mais l'apôtre Paul avait ce petit grain. Et le fou, vous savez, il est même dit, les fous sont réputés sages. C'est une des marques même des gens prophétiques, hein, la Manu. Oui. Je ne vais pas faire une semaine d'école de prophète là ce matin, parce que je vais essayer de respecter ce que Saint-Luc m'a dit, mais il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Le prophète est réputé fou. Parce qu'il y a quelque chose dans sa vie, et je ne parle pas d'insister sur les prophètes qui cultivent l'ulubérisme, ça se dit ça, c'est français? C'est pas essayer de cultiver l'extravagance, c'est simplement, je vous dis, il y a quelque chose dans le Christ qui dépasse l'entendement. On a vécu dans cette même salle un vrai miracle. Je n'ai pas le temps de vous le raconter. Un vrai miracle. Il y a 2 jours. Parce que Dieu est capable, avec rien, de produire quelque chose. Il est capable, au milieu du chaos, de sortir quelque chose. On a un Dieu qui est incroyable. C'est pour ça, c'est pas nous qui commentons que Dieu est fou. C'est Dieu lui-même qui parle de sa folie. Et il est dit, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et donc, il y a quelque chose qui doit venir nous heurter. Les gens qui veulent rester uniquement en accord avec ce qu'ils comprennent avec leur petite cervelle vont rater une partie tellement glorieuse. Et je voudrais vous dire, je sais qu'il y a des gens qui viennent de se marier. Ce n'est pas une nouveauté ici. Mais se marier, il faut être un peu cinglé. Quand vous voyez le nombre de... Oh, mais c'est là, j'avais encore pas vu que tu étais là. Quand tu vois le nombre de divorces qu'il y a, tu te dis, il faut être fou pour se marier. Mais je voudrais vous dire, Le mariage, c'est une histoire passionnante. C'est la plus belle histoire que tu puisses vivre sur terre. Et c'est simplement très important, un bon mariage, parce que le mariage n'est qu'un symbole, une image du grand mariage. Vous avez entendu parler de DSK ? Ouais ? Non, personne ici. Ok, c'est pas grave. C'est quoi ? C'est simplement que les gens, eh bien, sont sortis du bon sens. Moi, ce qui me choque le plus dans l'histoire, c'est qu'en plus, il est juif. Il comprend pas que l'histoire, finalement, c'est un vrai mariage. Il veut pratiquer sa religion. On lui donne des permissions pour ça. C'est pas de ça qu'on parle. Hein. C'est pas d'une pratique religieuse. C'est de la rencontre avec l'époux. Vous savez, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait, hein ? L'huile dans Matthieu, vous connaissez ça, hein ? Je pense que vous lisez votre Bible ici. Les vierges attendent l'époux. Les vierges sont à la rencontre de l'époux. Les vierges sont à l'écoute du Saint-Esprit pour dire comment je vais m'en sortir quand ça coince. Eh bien, elles acceptent d'entrer en contact avec la folie qui animait l'apôtre Paul. Un peu de sa folie. Mais supportez-moi. Il a quelque chose à dire. Supportez-moi. Je sais que j'ai été difficile à supporter depuis tant d'années pour certains de mes amis. L'apôtre Paul aussi, il était insupportable. Ça ne fait pas de moi l'apôtre Paul, je vous rassure. Pourquoi il était insupportable ? Parce qu'il était jaloux. Regardez, c'est écrit, hein, c'est pas de moi ça. Hein. Car je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu. C'est pour ça que je suis un peu taré. Puis chaque fois que je revois les gens, je dis, est-ce que t'aimes toujours Jésus ? Parce que c'est la seule chose qui nous tiendra en vie. C'est pas des théories, c'est pas des pratiques, c'est pas des techniques. C'est un amour grandissant pour le Christ. C'est comme ça que tu commences. C'est comme ça que des gens veulent s'engager avec Jésus. Moi, j'ai un petit grain de folie qui me dit, j'ai envie de plonger avec eux tout à l'heure. Parce que j'ai envie de devenir encore un peu plus amoureux de Jésus. Il est dit, je suis jaloux à votre égard. Tu dis, ah ouais, mais la jalousie, c'est pas bien. Il y a une mauvaise jalousie et il y a une bonne jalousie. Il est jaloux, ça veut dire quoi ? La jalousie, est-ce que vous saviez que Dieu est jaloux ? Est-ce que vous saviez que vous appartenez plus à vous-même ? Vous n'êtes plus votre propriété. C'est difficile à supporter, hein, surtout quand tu es français. On aime bien notre indépendance, hein ? Je suis jaloux à votre égard. Si je pouvais secouer tout le monde, là, un à un. Je suis jaloux à votre sujet de la jalousie de Dieu. Si simplement vous captiez un rayon de la jalousie de mon Dieu, je pense qu'il y aurait quantité de choses qu'on ferait autrement. Pourquoi ? Parce que c'était pas parce qu'il avait un ministère. C'était pas parce qu'il était apôtre. C'était pas parce qu'il avait une révélation. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Hey, je sais qu'il y en a qui des fois bataillent pour trouver un conjoint. Mais écoutez, c'est pas une fin en soi. Je comprends ça. Je comprends la douleur qui va avec. Et en réalité, des fois, on bataille tellement. C'est compréhensible ça, batailler pour trouver un conjoint. On bataille tellement, c'est simplement parce que exactement ce sont les frustrations que tu ressens dans ton cœur que mon Jésus ressent par rapport à son épouse qui fait sa crise d'indépendance, qui n'est pas prêt à donner sa vie à l'autre. Parce qu'il faut être un peu cinglé. Moi, je dis, c'est plus facile de se marier à 22 ans qu'à 30. Parce que quand tu as 30, tu as un peu plus de cervelle. En principe, ça devrait être comme ça. Mais donc tu réfléchis plus, tu calcules plus. Mais vous savez quoi ? L'amour calcule pas. L'amour, il se livre, il se jette. C'est tellement beau de voir des gens amoureux. J'étais dans la voiture, je regardais Raphaël et sa fille. Il a sa fille à côté, il fallait qu'il la caresse dans la voiture. Et il est complètement fou. Moi, je le connais depuis que sa maman, elle avait un ventre comme ça. J'ai vu quand il était encore dans le ventre de sa maman, ce jeune garçon. Il n'a jamais eu des comportements comme ça. Il était normal, un petit garçon, il pensait à son ballon, à ses petites voitures, à je sais pas quoi, moi. Mais maintenant, il pense plus qu'à sa fille. Il est amoureux de sa fille. Sa fille, sa femme, les autres. Mais c'est tellement bien ça, d'être amoureux. Parce que c'est ça la vie. Et Jésus veut nous démontrer quelque chose. Un cœur donné à Jésus. Je voudrais dire à tous ceux qui vont prendre le baptême, c'est une histoire d'amour qui commence. Et Dieu voudrait nous inviter à entrer dans des fiançailles exceptionnelles. Vous savez, des fiancés, ils pensent plus qu'à leur conjoint, ils maigrissent, ils deviennent obsédés, ils pensent qu'à ça. Et leur passion, c'est de se préparer pour le jour J. Je vous ai fiancé au Christ. Et je dis pas ça pour ceux qui ont pas de conjoint. Je veux pas de culpabilité ici, s'il vous plaît. D'accord? Si vous avez pas trouvé de conjoint, le Seigneur s'occupe de ça. D'accord? Faites-lui confiance. Engagez-vous avec Jésus dans cette histoire d'amour-là et soyez ouverts pour le reste. Je vous ai fiancé pour vous présenter. Écoutez bien. On n'est pas ici simplement pour chasser des démons. On est ici parce qu'en réalité, on déblaye un terrain parce que à l'objectif, à l'horizon, se profile le jour des présentations. Dans certaines cultures, on ne montre pas la fiancée. Puis même chez nous d'ailleurs, en principe, on n'a pas le droit qu'elle voie sa robe et tout ça. En réalité, il y a quelque chose de mystérieux qui doit être produit. Imaginez quand Jésus... On sait que Jésus, il est déjà là. Mais le jour de la présentation, le jour du mariage, la Bible appelle ça le jour des noces de l'agneau. On a une théologie sur la fin des temps qui est beaucoup trop futuriste. Il faut qu'on se prépare aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une église et puis cette parole est venue sur moi tellement fort. Si c'était le dernier jour, le Seigneur m'a réveillé comme ça. Si c'était la dernière fois où tu peux prendre la parole. Vous savez, ça change la façon de se comporter. Si c'est la dernière fois que tu peux dire quelque chose à quelqu'un. Si c'est la dernière fois que tu peux prêcher, tu prêcheras plus pareil. D'ailleurs, tu peux poser la même question dans l'autre sens. S'il te reste, par exemple, 10 ans, qu'est-ce que tu vas faire pendant ces 10 ans? Pensez à ça. Imaginez que le mariage, c'est dans 10 ans. Comment tu vas structurer ta vie? Quelles sont les décisions que vous allez prendre? Si c'est dans 50 ans, on va être vieux, Luc. Non, mais c'est des réalités. Ou alors la Bible est complètement fausse. Mais moi, je ne crois pas à ça. Je crois à la parole de Dieu pour vous présenter au Christ. Vous savez ce qui va se passer? Quand tu vas le voir, les yeux dans les yeux, tu vas devenir comme lui. Waouh! Quand tu le vois, tu deviens comme lui. Et enfin, il peut y avoir le mariage. Enfin, tu peux le connaître. Vous savez, notre vie, c'est une vie où on cherche à connaître Jésus. On veut se rapprocher de lui. Ce n'est pas simplement un temps technique, la louange. C'est une attitude de cœur où tu te rapproches de Jésus. J'ai faim, j'ai soif de te connaître. D'entrer en toi, que tu entres en moi. Il y a ce passage, il dit, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il y a un échange, il y a un mélange. Il y a un moment donné, on ne dira plus des fausses doctrines parce qu'on sera... On sera tellement unis avec lui, tu penseras comme lui, tu vivras comme lui, tu vivras plus jamais sans lui. C'est ça le mariage. Tu peux plus penser comme tu as envie de penser. Ma femme, avec la grâce qu'elle a, elle me rappelle, sans le faire exprès, régulièrement, qu'on a besoin les uns des autres. Hein? Et c'est mutuel, hein? Vous savez quoi? C'est bon comme ça. Parce que ce qu'on cherche, c'est le jour des noces. Se présenter à Christ. Vous voudriez vous présenter comme une... C'est comment? Comme une vierge pure. Seigneur Jésus, il y a tellement de gens qui ont perdu leur virginité. Vous savez ce qui marque la virginité? C'est quelqu'un qui est simple. C'est quelqu'un qui est pur. Je voudrais vous dire, on s'est laissé envahir par beaucoup trop de choses. Une vierge pure. Mon bien-aimé est à moi, je suis à lui. C'est simple. Même l'apôtre Paul, il pousse le bouchon à un point un peu spécial. Il dit quelque chose, il dit « Toutes choses sont permises ». Je ne vous ai pas dit de faire comme DSK, mais l'apôtre Paul dit « Toutes choses sont permises ». Mais si tu es vraiment amoureux, tu n'as pas envie de tromper. Comme une vierge pure. Qui c'est qui va à la rencontre de l'époux? Des vierges. C'est la parabole. Le royaume de Dieu est semblable à des vierges qui vont à la rencontre. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un jour incroyable. Ce n'est pas simplement parce que c'est la fête des mères, c'est parce qu'on est en train de se préparer à la rencontre de l'époux. Comme une vierge pure. Et l'apôtre Paul dira ça dans les Éphésiens. Il dira, comme le Christ a aimé l'assemblée, Marie, aimez vos femmes. Les enfants, honorez vos parents. Exactement pareil. Et puis là, j'ai eu peur, parce que ça arrivait au verset 3, il est dit, toutefois, de même que le serpent a séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent. Vous comprenez? C'est possible, pendant, on était 2 semaines en vacances, et pendant ces 2 semaines, le Seigneur m'a bombardé jour après jour avec un passage, je ne vous dirai pas où c'est, vous le chercherez, avec un passage où Dieu m'a montré qu'il y a 3 façons dont le diable travaille. Mais comme on n'a pas une semaine ni 25 ans devant nous, cherchez dans la parole de Dieu, cherchez avec le Seigneur. Mais je crains que comme le serpent a séduit Ève par sa ruse, c'est assez incroyable parce que le même Jésus qui a dit « Soyez simples comme des colombes », il a dit « Soyez rusés comme des serpents ». Hello. Méditez tout ça. Le serpent a séduit Ève par sa ruse. Je crains que vos pensées ne soient corrompues et ne se détournent de la simplicité quant à Christ. Il y a quelque chose qui boue dans mon cœur, mes amis. Il nous faut revenir à cette simplicité du Christ. Quelque chose qui est simplement amoureux de Jésus. Ce n'est pas seulement un acte rentré dans une baignoire, demander le baptême. Ce n'est pas seulement un acte religieux. Ça doit être un acte d'amour. C'est dire l'amour de mon Dieu est plus fort que la mort. C'est pour ça que je suis prêt à rentrer dans l'eau. C'est dire une vie avec Jésus, ça surpasse tout. Qu'est-ce qui pourrait me détourner de cette simplicité quant au Christ? On a différentes réponses. Ce n'est pas à moi de vous donner ces réponses. Restez devant le Seigneur avec ça. Je crains que vos pensées ne se soient laissées détourner de la simplicité à l'égard du Christ. Et c'est ça ma prière ce matin. Ma prière, c'est que, sachant l'importance du jour, connaissant l'urgence des temps, je voudrais vous dire, ce matin, je ne sais pas pourquoi, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu les infos avec tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Ce matin, j'ai regardé les infos. Et il y a un monsieur qui disait, il y a eu la crise, il y a eu l'avant, il y a eu l'après. Plus rien ne sera pareil. Il y a Internet, avant Internet, c'est plus après. C'est terminé. Le monde a changé. Les nations changent. Il y a quelque chose qui se passe juste en dessous de la Méditerranée qui ne sera plus jamais comme avant. Il y a quelque chose dans notre nation qui change, qui ne sera plus comme avant. Vous interrogiez les gens il y a un mois, tout le monde savait qui c'est qu'allait être le président de l'an prochain. Aujourd'hui, je vous dis, c'est très instable. Est-ce qu'il y a quelque chose de stable dans nos cœurs, dans nos vies, qui fait que le lendemain n'est pas un sujet de crainte? Qui fait que la terre sera épousée. Qui fait que l'Alsace et la Lorraine seront mariés. Mes amis, je crois que non seulement il faut des fois un reset pour remettre le hardware d'équerre, mais peut-être c'est un temps de changer de logiciel. On appelle ça une façon de penser, une façon de procéder. Il y a quelque chose qui doit changer. Vous voudriez que la terre soit remplie de la gloire de Dieu ? Ben, il suffit d'être un candidat. Dire « Seigneur, me voici ». Vous voulez que le royaume avance en France ? Est-ce qu'il avance dans ta vie et dans ma vie ? Je donne de leçons à personne. Je vous partage mon cœur pour vous dire ce à quoi l'Esprit de Dieu est en travail actuellement. Pour qu'on arrive à un point où on dit « Seigneur, viens ». Les gens ne comprennent pas, excusez-moi, je vais ouvrir une toute petite fenêtre très importante. Les gens ne comprennent pas que ce n'est pas seulement la Jérusalem terrestre. Jérusalem sera épousée. Je vis, avant dernier chapitre de l'Apocalypse, je vis la nouvelle Jérusalem. Quelque chose qui descend, qui n'a pas le format de la terre, qui descend d'en haut. Et Dieu dit, je vais épouser. Ça, c'est des noces qu'on ne connaît pas. Je voudrais dire, il y a des noces qu'on ne connaît pas qui sont sur le point de se produire. Il y a quelque chose qui, sur la terre, est en train de basculer. Les nations ne savent plus où elles en sont. Nous, on savait même ce que c'était que la démocratie. Mais je voudrais vous dire, la démocratie révèle sa fragilité. Seigneur Jésus, nous voici devant toi ce matin. Seigneur, mon cœur bondit d'une telle joie de savoir que des gens veulent donner leur vie à Jésus et le démontrer par les eaux du baptême. Mais Seigneur, ce n'est pas on veut simplement mourir, c'est on veut vivre d'amour pour toi. Le baptême, ce n'est pas seulement un signe pour mourir, c'est un signe pour revivre. Pas pour vivre d'une vie qui dure 25 ans, c'est pour vivre d'une vie éternelle. Et Seigneur, nous appelons ta bénédiction sur chacun de ceux qui sont ici, parce que le temps du mariage s'approche. Et Seigneur, nous voulons nous préparer. Seigneur, prépare nos cœurs. Mets-nous dans la bonne position. Seigneur, il y a des lavages à faire, il y a des curetages, il y a même La Bible dit pour aider le sot à sortir de sa sottise, des fois c'est la réprimande, des fois c'est la correction. Je sens qu'il y a un temps qui est en train de se préparer où le Seigneur va nous travailler, mes amis. Et on n'a plus 50 ans, écoutez bien, on n'a plus 25 ans pour se préparer. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui qu'il faut entrer dans une réalité d'épousailles, de fiançailles, comme jamais. Et je voudrais vous dire, ça commence par la façon dont tu traites ton conjoint. Le Seigneur m'a donné une révélation tout au début de l'année. Il m'a dit, si tu veux voir le royaume de Dieu autour de toi, il faut que le royaume de Dieu en toi grandisse. Seigneur Jésus, nous sommes devant toi ce matin. Seigneur, tu veux sonder nos cœurs. Tu veux nous enlacer avec un amour. Pas avec ses reproches et ses accusations que le diable est tellement doué pour nous balancer à la figure. Mais Seigneur, merci de faire de chacun ici quelqu'un d'amoureux de Jésus. Seigneur, nous aspirons à ce mariage. Seigneur, nos frustrations, elles sont là. C'est qu'on a déjà goûté à ton amour et qu'on en veut plus. Et que parfois dans notre cervelle on se perd. Et que des fois ça devient tellement compliqué, Seigneur, les situations, les conditions, qu'il n'y a qu'un miracle de toi. Mais Seigneur, le miracle est certain. Nous voulons déclarer à toutes les situations, à toutes les incertitudes, que le temps du mariage s'approche. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous accueillons l'Esprit de Dieu. Nous accueillons dans nos vies la présence de l'Esprit Saint qui parle à nos cœurs, qui s'accorde et l'épouse et l'Esprit pour dire « Viens, Seigneur Jésus ». Dites-lui, dites-lui, nuit et jour, « Viens, Seigneur Jésus ». Pas seulement « Viens dans ma vie », mais « Viens dans ma famille ». Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Dans ces bureaux, ça coince. Viens dans ces situations tellement compliquées qu'il n'y a que toi qui peux résoudre, Seigneur. Des fois, on a envie de résoudre et puis on complique encore plus que ce qu'on aurait aimé. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, nous accueillons ton esprit. Seigneur, on se lève comme ces vierges folles pour dire, viens Seigneur Jésus, nous allons à ta rencontre, nous nous préparons, comme l'épouse s'est préparée, sans tache, même si on vieillit, sans rides, je voudrais vous dire, c'est notre destinée, pas de rides. Et pas dride, ça ne veut pas dire maquillé, bien maquillé. C'est être préparé pour l'époux. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux te prier pour ceux qui sont ici, pour Luc, Manu et ceux que tu leur as confiés. Seigneur, aide-les ensemble à être préparés et à se préparer. Et à préparer une multitude, afin que de génération en génération, une passion puisse les animer pour que ton règne vienne. Au nom de Jésus. Amen.
Merci, Sam.